Les deux orphelines, cinquième partie, chapitre 19. Roger attendit encore quelques secondes, et c'est au milieu d'un silence glacial qu'il entreprit de controverser les arguments des orateurs qu'il avait précédés dans la discussion. Il commença par faire l'éloge du courage et du sentiment national que portent si haut, dit-il, les officiers de marine. Il déclara d'une voix vibrante que les officiers de l'armée de terre, et lui tout le premier, seraient pour eux, à l'occasion, d'enthousiastes frères d'armes rivalisant de bravoure et d'effort pour maintenir haut et ferme devant l'ennemi le drapeau de la patrie. Dès le début de son discours, Roger avait su captiver l'attention et s'attirer la bienveillance de l'auditoire, naguère encore prévenu contre lui. Après son exorde habile, chacun s'attendait de la part du jeune gentilhomme à quelques propositions audacieuses. Ceux qui précédemment avaient assisté à la conversation dans laquelle M. de Virlet avait fait part de ses pressentiments au sujet des débuts militaires du chevalier ne doutaient pas que celui-ci allait se ranger à l'avis général et apporter un argument de plus en faveur du combat à offrir à l'escadre anglaise. Le commandant, également convaincu que le jeune officier allait conclure dans ce sens, enveloppa d'un regard de triomphe le marquis de Lafayette, impassible à sa place de président. Lafayette, lui aussi, attendait ce qu'allait dire le chevalier. Il ne pouvait admettre que celui qui avait si ardemment sollicité la faveur de guerroyer en Amérique eût demandé la parole uniquement pour déclarer qu'il se rangeait du parti de M. de Villeray et des autres officiers de marine. Il supposait au contraire que le chevalier de Vaudrey avait à cœur de combattre hardiment la proposition mise en avant et que pour cela, il devait tenir en réserve des arguments irrésistibles de nature à rallier les hésitants, s'ils s'en trouvaient, et tout au moins à ébranler la résolution des autres. C'est dans cette conviction que le marquis de Lafayette supporta avec calme le regard ironique que lui décochait M. de Virlet. À ce moment, du reste, le chevalier de Vaudrey, entrant en plein cœur du sujet, s'écriait. « Quel est le but lorsque l'on rencontre l'ennemi ? Le combattre, n'est-ce pas ? Essayez tout ce qu'il est militairement possible de faire pour sortir victorieux de la lutte. Ou mourir ! » interrompit le capitaine du foudroyant. Roger ne se laissa pas démonter par cette exclamation. Il reprit. « Je laisse de côté un argument qui aurait cependant sa valeur dans la bouche du général Lafayette, à savoir qu'ayant embarqué à bord de bâtiments frétés, assez frais, les troupes dont je fais partie, le général pouvait demander qu'on prît toutes les précautions possibles en vue d'un débarquement sur la côte américaine. Je ne veux pas davantage faire valoir ici que pour être héroïque, une folie n'en est pas moins une folie. » M. de Virlet, furieux, allait interrompre de nouveau. « Laissez parler, monsieur de Vaudrey, » prononça Lafayette d'un ton ferme. « Il est libre, au même titre que chacun de nous ici, de développer sa pensée. » Et il ajouta, s'adressant à Roger. « Continuez, chevalier. » Roger, au surplus, n'attendait pas cette autorisation, décidé qu'il était à poursuivre l'argumentation suivante. « Je répète, messieurs, que notre but doit être d'obtenir en toute occasion le plus de succès possible sur notre ennemi, l'anglais. Or, aujourd'hui, une occasion inespérée se présente de remporter une victoire sur nos adversaires. » Un mouvement de surprise se produisit dans l'assistance. Roger continua sur le même ton calme et convaincu. « Oui, nous pouvons aujourd'hui entamer avec les Anglais une lutte acharnée, et cela sans qu'il soit nécessaire de compromettre une seule existence, de verser une moindre goutte de sang français. » Le capitaine de frégate poussa un formidable éclat de rire, puis changeant tout aussitôt de ton. « J'ai voulu une discussion sérieuse, monsieur de Vaudrey, » dit-il sévèrement. « Je parle sérieusement, » répliqua Roger. « Je sais, et vous ne l'ignorez pas vous-même, qu'il y a là-bas, en Amérique, tout un peuple qui nous attend. Je sais que notre mission n'est pas de combattre une flotte anglaise, mais d'aller seconder la noble tentative des Américains. Je sais aussi que les marins anglais se piquent d'être les premiers manœuvriers du monde. « Prétention ridicule !» s'exclama le commandant du Lougre. « Eh bien, commandant, » poursuivit le chevalier en s'adressant cette fois directement à M. de Virlet, « donnons-leur aujourd'hui une double leçon et remportons sur eux une double victoire. Ne serait-ce pas remporter sur l'escadre anglaise une éclatante victoire que de prouver à ces officiers que vous êtes des manœuvriers plus expérimentés qu'ils ne sont eux-mêmes, que vous savez improviser et exécuter des mouvements d'une hardiesse telle qu'elle confonde vos adversaires vaincus dans cette lutte d'habileté. Trouvez, imaginez, monsieur le commandant, une combinaison, une ruse capable de tromper la surveillance de l'ennemi. Disséminez ensuite notre flottille, dont chaque bâtiment isolé, au lieu de naviguer de conserve avec les autres, se dirigera isolé vers un point convenu. Les forces de l'ennemi se diviseront à leur tour pour se mettre à votre recherche. Chacun de nos navires courra la chance alors ou de débarquer en Amérique sans être attaqué, ou d'avoir à lutter contre un seul des bâtiments anglais mis à sa poursuite. Et dans la lutte qui s'engagera, nous aurons la gloire d'une mort héroïque. » D'unanimes applaudissements éclatèrent tout à coup. En outre, un murmure d'approbation arrivait par les écoutilles, indiquant que l'équipage ne perdait pas un mot de ce qui se disait dans la salle du conseil. C'est qu'effectivement, les matelots, prévenus par le maître de timonerie, Mathieu, que des questions de la plus haute gravité allaient se discuter, et que c'était pour cela que l'on avait convoqué à bord du Louvre tous les officiers, avaient voulu savoir ce que l'on déciderait dans cette séance improvisée. Aussi, chacun s'était-il empressé d'imiter Mathieu, qui, lui, s'était approché de l'escalier conduisant à la salle du conseil. On savait d'avance que le capitaine de frégate ne démordrait pas de son intention de livrer combat aux Anglais, et les matelots n'étaient pas fâchés de voir de quelle façon leur chef à eux allait traiter les terriens, comme on appelait à bord du foudroyant les officiers qui composaient l'état-major du général Lafayette. Vent-Debout était naturellement au premier rang de ces enragés qui ne demandaient qu'à flairer l'odeur de la poudre. Et comme le respect dont on l'entourait à bord était presque aussi grand que celui qu'on professait pour le commandant lui-même, il s'ensuivait que tous les matelots attendaient sans oser se prononcer que le maître de timonerie eût formulé son opinion personnelle sur la grave question qui se débattait entre les officiers. Vent-Debout avait, ainsi qu'on le suppose bien, approuvé en tout point ce qu'avait déclaré vouloir faire le capitaine de Virlet et les officiers du bord. Après chaque discours de ses supérieurs, il avait donné aux matelots le signal, non des applaudissements, il ne l'eût pas osé par respect de la discipline, mais des murmures d'approbation qui, ainsi que nous l'avons dit, marquèrent à plusieurs reprises les péroraisons empreintes des plus patriotiques sentiments. Quand ce fut le tour du chevalier de Vaudrey de prendre la parole, Vent-Debout avait manifesté sa satisfaction en disant aux matelots qui l'entouraient. « Écoutez celui-là, vous autres. C'est le petit qui va découdre sa langue. Et je vous promets qu'il n'est pas de la trempe de tous ces autres terriens que nous transportons comme de vrais ballots de marchandises. C'est qu'il y a du sang dans ce petit-là. Je vous en réponds. Et je m'y connais. » Aussi, tout l'équipage était-il d'avance prévenu en faveur de celui que le maître de timonerie avait en si grande estime. Donc, pendant toute la première partie du discours, dans laquelle Roger exaltait si fort le courage et l'intrépidité des marins français, les matelots ne purent contenir qu'à grand-peine une furieuse envie d'applaudir à tout rompre. Force leur avait été toutefois de se contenter de simples murmures approbateurs. Mais quand le chevalier eut entrepris de prouver que l'on pouvait arriver à battre les Anglais, peut-être sans effusion de sang, à un premier mouvement de surprise et d'incrédulité avait succédé une clameur dont le maître de timonerie donnait le signal. C'est que Vent-Debout se piquait lui aussi de s'entendre comme pas un à faire manœuvrer un navire. Et les paroles prononcées par Roger avaient singulièrement flatté son amour-propre de maître de timonerie. « 1000 bombes à mitraille » s'était-il écrié. « Ça, c'est une idée. Vain Dieu. Et il a joliment raison, le petit. Voyez-vous ça, vous autres? Comme avec son air de ne pas y toucher et sa figure de demoiselle de la cour, il vous a allongé son idée. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il y avait du sang et du bon là-dedans. » Alors, l'enthousiasme de leurs supérieurs se communiquant aux matelots, on ne s'était plus contenu, quoi qu'il dût en résulter. Une formidable exclamation avait retenti, arrivant jusqu'aux oreilles de M. de Virlet. Le commandant, pour se rendre compte de ce qui se passait sur le pont, s'était précipité vers l'escalier. Il s'y trouva face à face avec Mathieu, qui n'avait pas eu le temps de se retirer. « Que fais-tu là ? » lui cria sévèrement le capitaine. « Parbleu, mon capitaine, j'écoute et je suis de l'avis du... » Il n'acheva pas. Monsieur de Virlet l'avait saisi par un bras et l'obligeait à descendre quatre à quatre les marches de l'étroit escalier. Et le poussant au milieu des officiers qui, eux aussi, s'étaient levés au bruit, « Messieurs, dit-il, du moment qu'il est ici question de manœuvre, Vent-Debout n'est pas de trop parmi nous. Il s'y connaît autant que le plus habile et je vais lui demander son avis sur la proposition que vient d'émettre le chevalier de Vaudrey. » Puis élevant la voix, « Que penses-tu de la chose que tu as entendue, Vent Debout ? » demanda-t-il. Le vieux loup de mer ne fit pas attendre sa réponse. « Je pense, mon capitaine, déclara-t-il, que le petit, pardon, excuse, que monsieur le chevalier, fit-il en se reprenant, a bien parlé. En vrai marin, nom d'un tonnerre. Je pense, poursuivit-il en s'animant, que v'là une fameuse occasion de brûler la politesse à ces godèmes du diable, et de leur prouver que nous n'avons pas de peine à être plus malins qu'eux, ou d'écraser cette vermine, si l'un de ces bâtiments en accoste un des nôtres. Comme a dit le petit, pardon, excuse, comme a dit monsieur le chevalier. Oui, faut ruser avec ces requins-là, qui croient déjà nous tenir et qu'ils n'ont qu'une bouchée à faire de nous. Et nous leur y apprendrons, mon capitaine, comment on joue à Colin-Maillard avec les coquilles de noix de sa majesté britannique. » Cette sortie du maître de timonerie produisit tout l'effet qu'avait espéré M. de Virlet. « Eh bien, messieurs, fit-il avec un sourire à l'adresse de Vent Debout, qu'en pensez-vous à votre tour? Devons-nous donner gain de cause à monsieur le chevalier de Vaudrey ?»«
Oui, oui, oui !»
s'écrièrent tous les assistants. Pendant ce temps, le vieux loup de mer se frayait un passage pour arriver jusqu'au chevalier. Il saisit les deux mains de Roger en s'écriant avec une émotion qu'il ne chercha pas à contenir. « Bien parlé, mon officier !» Lafayette intervint à son tour. « Le conseil a prononcé, dit-il. Le reste regarde maintenant monsieur le chef d'escadre, commandant de Virlet. » Pour toute réponse, le marin prononça ces mots. « Je m'en charge !» Puis se tournant vers le maître de timonerie, il ajouta « À nous deux la besogne, mon vieux Vent Debout !» Quand les officiers furent remontés sur le pont afin de retourner à bord de leur bâtiment, M. de Virlet put juger des progrès que les navires anglais avaient faits dans leur marche vers l'escadre française. Des bâtiments légers, un lougre et un cutter, se trouvaient déjà presque à portée de nos canons. « Ils n'ont pas perdu leur temps, ces requins-là » fit en riant le maître de timonerie. « Tant mieux !» répliqua le commandant. « Nous n'aurons que plus de mérite à leur jouer un tour. » À présent que M. de Virlet avait pris son parti d'éviter provisoirement le combat, il se piquait au jeu à seule fin de donner aux officiers de Lafayette la mesure de ses talents de manœuvrier. Nous avons dit que le soleil baissait rapidement. « Vois-tu, Vent Debout ?» fit le capitaine du Foudroyant. « Nous aurons le temps, j'espère, d'attraper la nuit. »«
Il le faut parbleu bien, mon capitaine !»«
C'est alors qu'il faudra travailler ferme. »« Je l'entends bien comme ça, » répliqua le timonier. « Alors, reprit M. de Virlet, sans cesser de suivre, au moyen de sa longue vue, la marche de l'escadre ennemie, « alors, ça te va de brûler la politesse aux Anglais ?»«
Oui, pour le moment. »«
Ah ben, parbleu, oui, je le répète, pour le moment. »« Qu'est-ce que tu veux dire par là ?»«
Que Vent Debout a son idée. »«
Toi aussi ?» Ce fut le tour de Mathieu de questionner son chef.
« Ah ben, fit-il, imitant l'intonation de voix de M. de Virlet. « Tu te figurais donc, vieux loup, que j'acceptais comme ça sans avoir une arrière-pensée ?»«
Ma foi, je croyais. Tu ne connais donc plus ton capitaine ?» Vent Debout mâchonna la chique qu'il avait tenue au fond de sa bouche.
« Tu ne réponds plus ?»«
Nous nous comprenons, mon capitaine. »«
Oui. »
Ce simple mot indiquait que M. de Virlet était enchanté d'avoir été deviné. Au bout d'un instant, il reprit. « Par exemple, Vent Debout, je vais te donner une tâche bien difficile. »«
Laquelle, mon capitaine ?»«
Celle de retenir ta langue. »
« Compris, mon capitaine. Je vais l'amarrer solidement, je vous le promets.
J'y compte. »«
Oh, bien sûr que l'on ne doit rien laisser supposer à tous ces terriens.
Suffisite, mon capitaine. On s'observera. » Puis après réflexion. « Cependant, mon capitaine, je voudrais bien faire une toute petite exception. »«
Qu'est-ce à dire ?»«
Oh, ne vous fâchez pas sans savoir. »«
Alors, explique-toi, et sans phrase. » »«
Je voudrais donc, mon capitaine, que vous me permettiez d'en causer. »
De quoi ? De nos projets ?
Oui, avec le petit.
Le chevalier de Vaudrey ?
Lui-même.
Tu as donc bien grande confiance ?
Oh, il n'y a pas de danger avec lui. Il ne dévoilera à personne.
Quoi donc ?
Parbleu, ce que vous pensez, ce que nous pensons, l'un et l'autre.
Et les deux marins partirent d'un éclat de rire en clignant de l'œil. Vent Debout, en affirmant à son chef qu'on pouvait tout dire au chevalier sans crainte d'indiscrétion de sa part, ne se doutait guère que de son côté, Roger avait deviné que M. de Virlay conservait une arrière-pensée tout en ayant l'air d'accepter sans hésitation la proposition de lutter d'habileté avec le commandant de l'escadre ennemie. On a vu que le capitaine du Foudroyant avait permis à Mathieu de s'ouvrir de ses projets au chevalier de Vaudrey. Il ne voulait pas toutefois que la chose eût lieu tout de suite. Aussi lui dit-il « Écoute, Vent Debout, il ne faut pas trop te presser de faire des confidences à ton petit, comme tu l'appelles. Je désire que tu ne parles qu'au moment où je t'y autoriserai. »
« Ça sera bien difficile, mon capitaine.
Amarre ta langue un peu plus solidement, voilà tout. »«
Je tâcherai, mais je n'en réponds pas. »
La conversation sur ce sujet fut interrompue par l'arrivée sur la dunette du général de Lafayette. Roger accompagnait le marquis. En les entendant marcher, M. de Virlay avait quitté sa longue vue.
« Il y a du nouveau, » dit-il simplement aux deux officiers.
« Quoi donc ?» demanda Lafayette avec une légère nuance d'inquiétude. « Probablement que les bâtiments anglais ont encore gagné sur les nôtres ?» hasarda Roger.
« Comme vous dites, monsieur le chevalier. »
Vent Debout jubilait, et son regard semblait dire à M. de Virlay.
« Vous voyez, mon capitaine, que le petit n'attend pas qu'on lui en remontre. »
Lafayette, en se présentant sur le pont, avait eu l'intention de voir par lui-même quelle disposition allait prendre le commandant. Celui-ci devina-t-il ce qui se passait dans l'esprit du général ? Toujours est-il qu'il dit à celui-ci d'un ton persifleur. « Vous ne pourrez guère m'aider, mon cher général, du moment qu'il ne s'agit plus de livrer un combat à nos ennemis. Je le regrette assurément, car j'ai la conviction que vous et vos troupes auriez pu nous donner un vigoureux coup de main pour jeter à l'eau tous ces gaillards-là. « Enfin, ajouta-t-il, puisque le conseil en a décidé autrement, je n'ai plus qu'à me conformer à la décision.
« Comment allez-vous procéder, monsieur le commandant ?»
hasarda Roger, voyant que M. de Virlay reprenait la longue vue pour la braquer sur les navires, dont le soleil couchant éclairait les voiles sur le fond diapré de l'horizon.
« D'abord, monsieur le chevalier, je vais réfléchir, si vous le permettez, sur le moyen de tromper ces deux petites coquilles de noix qui ont, vous pouvez en être persuadé, la prétention de venir bientôt canonner mon lougre.
« Ma foi, ajouta le marin, je vais faire tout le possible pour éviter qu'ils arrivent à porter.
Mais mille tonnerres, qu'ils ne s'attaquent pas à mon foudroyant, car il en cuirait, je vous le jure.
Et avec un bon feu par-dessus le marché, ricana Vent Debout qui ne pouvait perdre l'habitude de se mêler aux conversations de son chef.
Le principal, reprit M. de Virlay, sera de pouvoir attendre la nuit.
Avant que ces requins-là nous aient rattrapés, interrompit Vent Debout. Puis insensiblement, il se rapprocha du chevalier de façon à lui faire comprendre qu'il pouvait le renseigner sur les manœuvres que le capitaine se proposait de faire exécuter. Et tandis que la conversation s'engageait entre le commandant et Lafayette, Vent Debout entraînait Roger à quelques pas de la dunette, et il débutait brusquement par ces mots.
« Voyez-vous, mon jeune officier, il va falloir travailler dur cette nuit.
Me sera-t-il permis de me tenir sur le pont ?
« Je pense bien que le capitaine ne vous refusera pas ça. »«
Je lui en demanderai l'autorisation. »«
Savez-vous bien que vous avez joliment du goût pour le métier ?»«
Pour l'or, mon officier, écoutez ce que je vais vous dire. »«
Vous voulez vous renseigner sur la manière dont nous pourrons réussir à brûler la politesse à ces godames-là ? » ?»«
Voici. D'abord, nous allons faire à chaque bâtiment le signal d'éteindre ses feux pendant toute la nuit. »«
Complètement ? » ?»«
Complètement. »
Mais ce sera faire courir au navire le danger d'abordage.
Ma foi, ça sera un haut petit bonheur pour chacun d'eux.
Voilà qui n'est pas tout à fait rassurant, mon brave.
Est-ce pas vous, mon officier, qui avez demandé qu'on trompe l'escadre anglaise ?
Certes.
Eh ben, mon officier, qui veut la fin doit vouloir les moyens. Et celui dont je vous ai parlé est le meilleur qu'on pourra employer. Vous pouvez vous en rapporter à moi.
Roger était devenu subitement rêveur.
Vent Debout continua toujours à voix basse.
Ensuite de ça, mon officier, chaque bâtiment va recevoir un ordre qui le mettra bientôt à l'abri du danger d'abordage.
Un ordre ?
Ma foi, je vais tout vous dire.
Tant pis pour la consigne. Apprenez donc que le capitaine va faire savoir à chaque commandant de bord qu'il doit tirer de son côté, ainsi que vous l'avez proposé.
Ainsi, nos navires ne navigueront plus de conserve.
Plus du tout.
Ensuite, ajouta le vieux marin, le capitaine donnera l'ordre de se retrouver au port de Boston. On s'y retrouvera tôt ou tard.
Ainsi,
reprit le chevalier, vous augurez bien de cette manière de dépister l'ennemi. Et je réponds qu'il sera drôlement ébahi quand demain matin, ces requins-là n'auront été pour leurs frais d'avoir mis pendant la nuit toute voile dehors. J'en rirai comme une baleine, mon officier. Car l'escadre française, ni vue ni connue, n'y en aura plus. Disparu. Partez, muscade. Le tour sera joué, et demain de maître, je vous le promets. Et le vieux marin se livrait à une vraie joie d'enfant à l'idée que la manœuvre réussissant à souhait, les officiers des bâtiments français auraient donné une leçon d'habileté aux officiers de l'escadre anglaise. Ainsi qu'on le voit, il s'agissait de manœuvres d'une hardiesse extrême. Le commandant du Lougre avait pour cela pris conseil du maître de timonerie, après lui avoir expliqué tout son plan dans les plus minutieux détails. Comme ce n'était pas à propos des manœuvres à exécuter que M. de Virlay avait recommandé le secret à son maître de timonerie, celui-ci avait éprouvé une véritable satisfaction à renseigner son ami le chevalier de Vaudrey sur ce qu'on se proposait d'accomplir. « Voilà tout ce que je puis vous annoncer, mon officier, » dit Vandebout avec un sourire. « Quant au reste, motus. »«
Et quoi? Il y a encore autre chose que j'ignore ?»«
Patience, mon officier. Mais cependant, je croyais que le commandant s'était engagé... »
« À éviter l'anglais, ça c'est convenu. Mais ce qui n'est pas convenu, mais pas du tout, c'est autre chose.
Que vous ne pouvez m'apprendre ?»«
J'ai dit au capitaine que j'allais amarrer ma langue, et solidement encore. »
Le chevalier ne riait plus. Son front s'était subitement rembruni. Il eut l'intention d'insister auprès du maître timonier à l'effet de se faire renseigner. Mais Vandebout, devinant la chose, prononça tout bas ces mots.
« Patientez, mon officier. » Dans 2 jours au plus, si rien ne cloche d'ici là, je pourrai vous dire ce qui nous restera à faire.
Vous saurez alors, mon officier, pourquoi mon capitaine a accepté tout de suite votre proposition.
C'est qu'il avait son idée, le capitaine, et Vandebout aussi avait la sienne.
Et c'était la même, vrai de vrai, mon petit. Pardon, excuse, mon officier.